sur le plan des circonstances, le Seigneur ne nous donne pas un régime particulier.
Oh non, pas du tout.
Ce témoignage personnel, il y a environ une dizaine d'années que nous l'avons vécu avec mon épouse. À une année, c'était au mois de mars. L'hiver était presque fini, mais enfin, il faisait encore froid au mois de mars. Et je chauffe entièrement au bois. J'ai une chaudière à bois et toute la maison, je la chauffe au bois. La réserve de bois diminuait de plus en plus et je n'ai pas trop passé l'hiver. Et que faire? Et à ce moment-là, notre compte en banque était dans le rouge, donc il ne s'agissait pas d'acheter du bois. Et aller à la banque, on a vérifié ça, on n'avait pas commencé. Surtout pour du bien de consommation. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais on prie. On prie. On passe une journée à prier. Pas à genoux, mais en allant, venant, faisant son travail. C'est pas des prières bien sophistiquées, des prières à rallonge comme nous les faisons parfois. Non, non, non. Vous savez, ces prières-là, comme dans les psaumes, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu vois la situation. Et les jours se passent, le pas de bois diminue de plus en plus. Et, alors j'ai récupéré les palettes, les planches, tout. J'ai fait un ménage dans la maison. Et je me suis dit après, mais pourquoi tu as brûlé ça? Bref. Donc ça diminue de plus en plus. Et voilà, on continue à supplier le Seigneur. Et des fois, on a les larmes aux yeux, mais c'est difficile. Vous me direz, il y a des épreuves bien plus difficiles que ça. Oui, mais on ne console jamais quelqu'un en lui disant, mais tu sais, il y a des épreuves beaucoup plus grandes que la tienne. En fait, finalement, la plus grande épreuve, c'est celle que nous vivons. Je sais bien qu'on a les plus grandes, mais celle que nous vivons, toute notre énergie spirituelle, toute notre foi est... Et là, mobiliser, en question peut-être, non pas en question, mais bon, voilà. Alors les jours passent, et le tas diminue de plus en plus, et puis un jour, il y a un homme qui s'arrête de chez nous, hein, dans le domaine, et dit, bon, ben, il faisait des travaux dans le domaine où on habite, et puis il a dit, bon, ben, on fait des travaux, là, on a démoli pas mal de vieilles charpentes, de vieux bois, et on les emmène ce camion à la déchetterie. Si ça vous intéresse, je vais vous chauffer au bois. Si ça vous intéresse, je le bascule là. Bon, mais attention, hein. C'est plein de pointes, c'est tout. J'ai dit, c'est bien rare si j'arrive pas à passer la lame de la tronçonneuse en trop de pointes. Vu des salades. Ah, même qu'il y a du brouillard, ils sont beaux les jours de délivrance. Ils sont lumineux, les jours de délivrance du Seigneur. Bon. Ben, peut-être qu'on aurait pu aller à la banque. Pour nous, ça aurait correspondu à Vernizy. Peut-être pas pour d'autres, moi je ne parle pas pour vous, mais pour nous, oui. Alors, il s'agit de savoir comment on va faire face à l'épreuve, et je dirais plutôt à la mise à l'épreuve. Et voyez que c'est tout matériel, hein. Peut-être qu'on a besoin de revenir à Dieu dans les choses matérielles. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup d'enseignements compter sur Dieu pour les choses matérielles. Et je le dis devant les jeunes ici, parce que, vous savez, on parle beaucoup du pouvoir d'achat qui diminue, et on a tout le pressentiment qu'on va peut-être faire des temps difficiles matériellement. Bon, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont peut-être une retraite confortable, un salaire confortable, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est le fait de tout. Il y a des jeunes foyers qui ont un peu d'inquiétude vers la fin du mois, ou qui comptent. Beaucoup de chrétiens qui sont dans la difficulté financière, faut pas s'imaginer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui est sûr dans ce monde? Rien. Alors, peut-être que nous n'avons peut-être pas eu beaucoup d'enseignements sur le fait de compter sur Dieu dans les choses matérielles. Et pour nous, si nos frères ne nous ont pas beaucoup parlé de cet aspect des choses, il a fallu attendre d'écouter des frères comme Rapchalus ou surtout d'Apozzo, Erino d'Apozzo, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté par ses témoignages, ce frère extraordinaire. Je pense qu'on a fait, je vous ai raconté une histoire, mais il y en a beaucoup d'autres sur cette voie-là. Et c'est grâce à ces frères, grâce à leurs témoignages, ça nous a mis sur les rails. Et j'aimerais mettre ce soir les jeunes sur les rails, les jeunes foyers sur les rails. Et quand je dis jeunes foyers, je dis une petite parenthèse. Quand on est en couple, si on veut s'engager dans cette voie, il faut être bien ensemble. Parce que si l'un de compter sur Dieu et l'autre sur le système des brouilles, ça va pas aller loin. Faut être vraiment unis sur la question. Vraiment. Parce que sinon, il peut y avoir des reproches mutuels, et tu m'as engagé dans une histoire, etc. C'est ce que j'appelle la voie des deux airs. Vous retiendrez ça, la voie des deux airs. La voie rude et royale. Non, je ne dis pas aux jeunes que c'est facile, hein. Parce qu'il y a la mise à l'épreuve, il y a tout le temps de, avant qu'on ait la réponse de Dieu, mais il ne nous abandonne pas. Et là, on voit très bien qu'Abraham a manqué probablement d'interroger Dieu. Il a manqué de cet esprit de prière. Alors, on passe à Agan. C'est pas parce que, j'ai dit tout de suite, c'est pas parce que nous avons fait cette expérience il y a 10 ans que nous sommes automatiquement sur la même voie aujourd'hui. Eh non. Alors c'est avec l'histoire d'Agan qu'on va voir ça. Alors nous ouvrons le livre des Chroniques au 14e chapitre du livre des Chroniques, 2 Chroniques 14. Alors maintenant, tous ceux qui ont des Bibles tiennent bien leur Bible ouverte à ces chapitres 14, 15 et 16 du second livre des Chroniques. Alors, l'histoire d'Asa nous est racontée en 3 chapitres dans les Chroniques. Dans le livre des Rois, c'est beaucoup plus que ça. 3 chapitres pour nous parler de 41 ans, pas de vue, de règne. Alors, ceux qui étaient là dimanche, c'est un peu le sujet au bruit, ont déjà une connaissance de base de la vie d'Asa. Les autres, j'espère que vous en avez quelques notions déjà. Je ne vais pas lire ces 3 chapitres. Donc, et là je fais une petite parenthèse encore personnelle. Depuis une trentaine d'années, je tiens, et ce n'est pas un journal parce que je n'écris pas tous les jours, c'est un livre. J'ai pris un gros cahier de 200 pages qui est aux 2/3 rempli. Et je note cela dans ce cahier, tous les événements de notre vie. J'ai un vide de 8 ans. Je ne sais pas, j'avais été assez secoué, là, j'ai arrêté d'écrire, c'est dommage. Alors, dans ce cahier est comme en texte, ce verset, « Tu te souviendras de tout le chemin par lequel ton Dieu t'a fait marcher. » Bon, je sais bien qu'il y a des dangers. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur le rétroviseur, parce que sinon on va dans l'arbre. Et il faut quand même regarder le pare-brise. Mais c'est quand même utile de se souvenir de ce que Dieu nous a fait traverser et comment il nous a délivrés. J'engagerai peut-être les jeunes à faire ça aussi pour enregistrer les délivrances de Dieu. Tu te souviendras de tout le chemin. Alors sur ce cahier, il y a bien sûr la naissance de nos enfants, il y a leur mariage aussi, mais il y a des choses plus tristes, oui, de rentrer de nos enfants à l'hôpital. Ça, c'est daté. Mais leur sortie aussi, c'est daté. Les délivrances de Dieu. Il y a le décès de nos parents, mais il y a des choses beaucoup plus... la rencontre des grands, lui, pareil, bien sûr. Mais je n'ai même pas besoin de voir le cahier pour savoir que cette intervention spectaculaire de Dieu, le 1er septembre 77, vous voyez, c'est retenu. Et ce qui s'est passé en Pâques 83, en 97, etc. Et je suis bien sûr que même si vous n'avez pas noté, les anciens qui sont là peuvent dire « Ah, je me souviens en 40, la débâcle, et en 45, la libération. » Et puis, même je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Je me souviens, en février 2001, je suis rentré à l'hôpital pour me faire opérer du cœur, ou d'une prothèse du hanche. » C'est précis, c'est daté. Il y a des choses qui sont datées dans notre vie. Eh bien, c'est ça dans la vie d'Asa. Et on a 6 dates dans la vie d'Asa, dans ces 3 chapitres. Alors, la première date, 10 ans. Alors, j'ai lu quelques versets de ces 3 chapitres, et Abija s'endormit avec ses pères, donc c'est le père d'Asa, et on l'enterra dans la ville de David, et Asa, son fils, régna à sa place, et de ses jours, le pays fut en repos pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé 10 ans? Le verset 2, on le résume bien. Et Asa fut ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Voilà, c'est un refrain qui revient pour les rois pieux. Il fut ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel pendant 10 ans. C'est beau. C'est une période bénie. Il y a des périodes bénies dans notre vie. Bon, si ça pouvait durer. Si ça pouvait durer dans la vie d'Asa. Est-ce que ça a duré? Bon, si ça a duré quand même pas mal de temps. Il a été béni pendant 10 ans. Et puis, la 11e année, voilà qu'il y a une épreuve qui arrive. Une nouvelle épreuve. Il est comme dans la vie d'Abraham. C'était l'Éthiopien avec. Au verset 9, et Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars. Donc, le double. Alors, ça, je crois qu'il avait 500 000 hommes. Et voilà qu'une armée avec un million. Il y a trop de craintes, hein. Il est perdu, Hazar. Oui, mais c'est un homme pieux. Il fait ses droits à Dieu de l'Éternel. Il l'a fait pendant 10 ans. Et voilà qu'une épreuve arrive. C'est un ému, mais je l'appelle épreuve. Ça, ça l'est, oui. Une petite parenthèse, les jeunes, vous savez bien ce que c'est qu'une épreuve. Parce que si vous êtes en première, terminale, après, c'est l'épreuve du bac. C'est pas un châtiment, une épreuve. Le bac, c'est pas un châtiment, c'est une épreuve dans le sens de test. Pour savoir, pour tester les connaissances. Mais dans notre vie, il y a des tests. C'est pas des châtiments. C'est des tests. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais il faut s'attendre à des tests, à des épreuves dans notre vie. On ne peut pas traverser, ça serait clairement pas bon. On ne ferait pas ce qu'on a appris avec le Seigneur. Voilà, 10 ans, il a été fidèle et le test arrive. Cette armée d'un million d'hommes. Et là, il n'est pas comme Abraham, il interroge la bouche de l'Éternel, il prie. Hazar. On lit ensemble sa magnifique prière, elle est courte, elle est précise. C'est une magnifique prière de l'Écriture, verset 11, et Hazar invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, il n'y a pas de différence pour toi pour rêver entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Et c'est précis, c'est court. On peut dire que les plus belles prières que nous faisons, c'est celles que nous faisons dans la détresse, dans la difficulté, dans l'épreuve. Vous savez, il n'y a pas des enjolivures, hein, là. Il n'y a pas des enseignements, comme ça nous arrive quelquefois. Et c'est beau. Ah, s'il avait pu rester. S'appuyer. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Notez bien cela. L'Éternel accorde la délivrance. Au chapitre 15, on lit au verset 1, « Et l'Esprit de l'Éternel fut sur Azaria, fils d'Odel, et sortit au-devant d'Aza et lui dit. » Donc, il parle. Je ne dis pas tout ce que ce prophète dit à Aza. Ça, c'est un pressentiment, c'est une pensée un peu personnelle, mais le fait qu'un prophète soit envoyé à Aza montre, ça c'est une réflexion personnelle, je dis, me montre qu'il y a déjà eu un léger fléchissement chez Aza. Que Dieu ait dû lui envoyer un prophète, c'est que quand Dieu doit nous parler, eh bien c'est qu'il y a peut-être eu un léger fléchissement. Parce que vous savez comment on s'éloigne du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éloigner du Seigneur? Rien. Ah, il n'y a rien à faire. Pour s'en rapprocher constamment, et oui, il y a des efforts, il y a une discipline. Mais pour s'éloigner du Seigneur, il n'y a rien à faire. Nous sommes tous soumis aux influences du monde, qui est anti-chrétien, qui est séducteur. Et nous sommes aussi tous sous le poids du visible. Le visible s'oppose à la foi. Le domaine de la foi, on ne voit rien. Ce n'est pas nos sens. Il nous aide dans le domaine de la foi. Donc tout ça, ces éléments, puis nous n'avons pas forcément toujours de l'aide autour de nous pour rester au top niveau. Alors on s'éloigne insensiblement du Seigneur sans rien faire. Vous savez, c'est comme les barques. Une barque est sur le courant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle s'en aille dans le fil du courant? Rien, il n'y a rien à faire. Mais alors, pour remonter, oui, il faut remonter. Donc, j'ai l'impression que Hazar, au chapitre 15, s'est peut-être un petit peu éloigné du Seigneur et Dieu lui envoie ce prophète. Et le prophète lui parle et il écoute la voix du prophète. Et verset 8, c'est quand Hazar eut entendu ces paroles de la prophétie de Zec, il se fortifia, il fit disparaître, il renouvela l'autel, etc. Et le résultat, au verset 15, tout Judas se réjouit, ils ont recherché l'Éternel, ils l'avaient trouvé, etc. Et même il a été fidèle dans sa maison, Ah ça, c'est pas facile d'être fidèle dans ta maison, hein.